VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 12 décembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Gambie, Yahya Jammeh va maintenant saisir la Cour suprême pour contester les résultats de la présidentielle du 1er décembre.
En République démocratique du Congo, la majeure partie de l'opposition appelle à la retransmission en direct des négociations dites de la dernière chance.
En Égypte, un attentat à la bombe a tué hier au moins 23 personnes dans une église copte orthodoxe au Caire.
Syrie, proposition des États-Unis et de la Russie pour permettre l'évacuation des rebelles retranchés dans Alep-Est.
Donald Trump, le président élu des États-Unis, trouve ridicule les conclusions de la CIA sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle du 8 novembre.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Gambie, le président sortant, Yahya Jammeh, va contester en justice les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre. Après avoir reconnu sa défaite, il a fait un revirement total, Idriss Fall.
Le parti au pouvoir a annoncé qu'il va saisir la Cour suprême. Cette saisine doit intervenir au plus tard 10 jours après proclamation des résultats. Ce lundi étant férié en raison de la fête musulmane du Mouloud, ce recours devrait être déposé donc demain mardi. La Cour suprême gambienne n'étant pas au complet, plusieurs juges devront être nommés avant qu'elle ne puisse statuer. Vendredi, le président Yahya Jammeh a refait une surprise. Il avait déjà reconnu sa défaite, puis a rejeté la totalité des résultats. Il demande un nouveau vote en assurant que l'intervention des puissances étrangères ne changera rien. Il a aussi prévenu qu'il n'allait tolérer aucune protestation. D'ailleurs, Banjul, la capitale, est quadrillée par des forces de l'ordre. Adama Barrow, le président élu, l'a appelé à accepter sa défaite et à rejeter sa demande pour la tenue d'un nouveau scrutin. Le Sénégal, unique voisin de la Gambie, a été le premier pays à condamner cette volte-face de Yahya Jammeh. Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, a estimé que ce revirement est inacceptable et menace la paix dans toute la sous-région.
En République démocratique du Congo, la majeure partie de l'opposition appelle à la retransmission en direct des négociations dites de la dernière chance, à moins de 10 jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Le point avec Jean-Roger Bion.
Bruno Tshibala, porte-parole du rassemblement, a exigé hier la retransmission en direct des débats pour que l'opinion soit informée. Lambert Mende, porte-parole des partisans de l'accord politique d'octobre, passé entre la majorité et la frange minoritaire de l'opposition, a répondu qu'il n'était pas question de retransmettre en direct ces négociations. Sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, elles mettent face à face les partisans de l'accord en question et le rassemblement derrière l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Ces négociations qui ont démarré jeudi ont été suspendues le lendemain. Elles doivent reprendre demain mardi et se terminer au plus tard le jeudi 15 décembre 2016. Le rassemblement a annoncé qu'à l'issue des travaux, M. Étienne Tshisekedi s'adressera à la nation quelques jours avant la fin du mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre prochain.
L'Union européenne a signé à Bamako un accord avec le Mali, le premier du genre, pour lutter contre l'immigration clandestine et favoriser le retour des migrants maliens vivant illégalement en Europe. Pour le ministre néerlandais Bert Koenders, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne, c'est la première fois que l'UE établit des engagements aussi précis avec un pays africain pour le retour des demandeurs d'asile refusés. Selon Eurostat, le nombre de demandeurs originaires du Mali était 12 945 en 2014 et 8 405 en 2015.
L'accord avec le Mali comprend des initiatives pour aider les jeunes à trouver du travail, lutter contre les réseaux de trafiquants et améliorer le contrôle des frontières. 9 projets d'un montant de 145,1 millions d'euros ont été adoptés. Par ailleurs, des fonctionnaires maliens se rendront dans les pays membres de l'UE pour aider à déterminer l'identité des migrants pour accélérer leur retour. Pour lutter contre l'immigration clandestine, un plan d'action a été adopté au sommet de la Valette en novembre 2015. Bruxelles avait décidé d'aider l'Afrique à endiguer les flux de migrants avec un fonds de près de 2 milliards d'euros. outre le Mali, l'UE cherche à négocier des accords pour le retour des migrants avec l'Éthiopie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.
Au Nigeria, deux fillettes se sont fait exploser hier matin dans un marché très fréquenté de Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria, faisant au moins un mort et 18 blessés selon un bilan officiel. Et d'après Abdulkarim Djabo, un membre des milices civiles de la capitale du Borno qui était présent, les kamikazes devaient avoir 7 ou 8 ans.
En Égypte, un attentat à la bombe a tué hier au moins 23 personnes dans une église copte orthodoxe au Caire. C'est la pire attaque contre cette minorité religieuse depuis des années. Un service religieux était célébré dans la petite église parce que la cathédrale copte du Caire, siège du pape orthodoxe, est actuellement en rénovation. Selon le ministère de la Santé, la plupart des victimes sont des femmes et au moins 49 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.
Le pape Tawadros II a dû interrompre sa visite en Grèce pour revenir au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sissi a condamné l'attentat qu'il a qualifié de lâche et il a déclaré 3 jours de deuil national. L'imam de l'Institut Al-Azhar, la plus haute institution de l'islam sunnite, a également condamné une attaque infâme. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné cette attaque en appelant à unir les forces pour combattre ensemble le terrorisme.
En Somalie, plus de 20 personnes ont été tuées hier matin dans un attentat suicide au camion piégé à Mogadiscio. Cette attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste des Shebab, affilié à Al-Qaïda. La police, qui a parlé d'au moins 48 blessés, s'attend à un bilan plus lourd.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et la Russie ont avancé hier une proposition permettant l'évacuation des rebelles retranchés dans Alep Est. Selon l'agence Reuters, seuls les combattants munis d'armes légères seraient autorisés à quitter le secteur, actuellement soumis à une vive offensive des forces gouvernementales syriennes et leurs alliés. Cette évacuation, présentée comme sûre et digne et menée sous supervision des Nations Unies, s'étendrait sur une période de 48 heures, selon des responsables de l'opposition syrienne en contact avec les insurgés d'Alep. Ces derniers n'ont pas encore fait connaître leur réponse.
Un groupe radical kurde a revendiqué dimanche un double attentat qui a fait samedi près de 40 morts, dont 30 policiers dans le cœur d'Istanbul. Il s'agit des Faucons de la Liberté du Kurdistan, un groupe radical proche du PKK. Le président Recep Tayyip Erdogan a promis de lutter jusqu'au bout contre le terrorisme.
Ici, aux États-Unis, le président élu Donald Trump a qualifié de ridicule les conclusions de la CIA selon lesquelles la Russie s'est immiscée avec ses cyberattaques dans la présidentielle du mois dernier pour renforcer ses chances de succès. Pour lui, il ne s'agit que d'une nouvelle excuse des démocrates suite à sa victoire surprise face à Hillary Clinton. Dans une interview exclusive à Fox News, Donald Trump a par ailleurs vanté les qualités de Rex Tillerson, PDG du géant pétrolier Exxon, son choix vraisemblablement pour le département d'État. Mais deux sénateurs influents, le républicain John McCain et Lindsey Graham, aimeraient en savoir plus sur les rapports personnels de Tillerson avec le président russe Vladimir Poutine.
Dans la même interview à Fox News, M. Trump s'est demandé si les États-Unis devraient continuer leur politique d'une seule Chine qui inclut Taïwan, si Pékin ne fait pas des concessions commerciales et autres. « Je ne veux pas que la Chine me dicte ce que je fais », a déclaré le président élu en défendant sa récente conversation téléphonique avec la présidente de Taïwan. Donald Trump a également dénoncé les politiques actuelles de Pékin, dont le renforcement du potentiel militaire chinois en mer de Chine méridionale et son incapacité, celle de Pékin, à empêcher la Corée du Nord à procéder à des tests nucléaires.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
La République du Congo et la Banque mondiale ont signé un projet de 120 millions de dollars d'une durée d'exécution de 5 ans. Ce projet vise à améliorer le système éducatif et l'accès des populations aux services urbains de base tels que les logements décents, l'eau, l'électricité, ainsi qu'à renforcer les capacités de gestion municipale des autorités nationales et locales. Le Nigeria investit 3 milliards de dollars dans sa banque d'agriculture, ce qui va permettre à cette banque de délivrer des prêts à des exploitants agricoles à des taux avantageux afin de booster l'agriculture qui emploie 70% de la population active, mais délaissée au profit du pétrole. En Namibie, le FMI estime que la croissance économique ne devrait être que de 1,6% en 2016 contre 5,3% en 2015 en raison de la baisse des performances du secteur minier et de la réduction des dépenses publiques. La Banque centrale de Namibie prévoit quant à elle une croissance économique de 2,5% en 2016. Le FMI appelle les autorités à réduire davantage le déficit budgétaire. Au Kenya, les assureurs délaissent les banques pour investir sur les bons du Trésor, plus rentables à court terme, pour réduire leurs charges d'intérêt et maintenir leurs marges. Ceci à la suite d'une loi qui rogne les revenus d'intérêt des banques. Cette situation prive les banques de 15% environ de dépôts de court terme, souvent utilisés pour offrir des services de liquidité aux entreprises. Mais elle bénéficie au gouvernement qui peut emprunter à des taux compétitifs sans forcément recourir à une politique monétaire agressive.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, Coupe du Monde des clubs, Mamelodi Sundowns éliminé au premier tour.
Oui, les Japonais ont balayé les espoirs de tous les Africains pour la troisième année consécutive. Un champion africain n'aura pas fait long feu dans cette compétition, comme le TP Mazembe l'an passé. Le vainqueur de la Ligue africaine des champions, Mamelodi Sundowns, a été écarté dès son premier match par le champion du pays hôte, Kashima Antlers 2-0. Les Sud-Africains devront se contenter du match pour la cinquième place face aux Sud-Coréens de Cheongbuk Hyundai. Les Japonais, eux, défieront les Colombiens de l'Atlético Nacional en demi-finale. La seconde affiche de cette demi-finale fera le Real Madrid croiser les Mexicains du club América, tombeur justement des Coréens de Cheongbuk 2-1.
Le club Mamelodi Sundowns, d'ailleurs, est dans la liste finale des meilleurs clubs africains de l'année.
Effectivement, Idrissa, le club sud-africain éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs sera en compétition avec le TP Mazembe, le Zamalek, Zesco United et le Mo Bejaa. Après avoir dévoilé le 22 novembre dernier les 5 finalistes pour le titre du joueur africain de l'année, la CAF en a fait de même hier pour les autres catégories. Les lauréats seront connus le 5 janvier prochain lors d'une cérémonie à Abuja au Nigeria.
Élisée, on fait maintenant le point de quelques championnats africains de première division.
On démarre par le Gabon, 4e journée du championnat et le CF Mounana conforte sa première place, ce grâce à sa victoire de 2 buts à 1 hier contre Akanda. Son dauphin Mangasport n'a fait qu'une bouchée du canon 105, 8 buts à 1. En RDC, la phase retour du championnat se poursuit en attendant les playoffs. Dans la zone ouest, la SV Club garde toujours la première place suite à sa victoire étriquée 1-0 devant Veti Club. Le derby de Kinshasa a vu Desampé battre Renaissance 3 buts à 2. À l'est, les deux matchs au sommet n'ont connu ni vainqueur ni vaincu. Le leader dauphin noir a été accroché par Virunga 0-0. Même score entre Bukavu Dawa, second au classement, et Olympique Club Mugano. Au centre-sud, on aura droit ce soir au match au sommet. Le TP Mazembe reçoit Sanga Balende à Kamalondo.
Au Togo, le leader enregistre sa première défaite de la saison.
Oui, l'AS Togo Port est tombé à Sokodé contre le Semasi, vainqueur 2 buts à 1. Son dauphin Dito en profite pour revenir à 2 points, puisque vainqueur d'Unisport sur le même score. Et puis, quatrième journée en Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa, vainqueur en déplacement 1-0 devant Sewi Sport, conforte sa première place. La bonne opération est pour Wak, qui s'empare de la deuxième place suite à son succès 2-0 face à Moussou.
Handball à présent et la fédération nigérienne a une nouvelle présidente.
Abiba Moussa Hassan succède donc à Oumu Traoré à la tête de cette fédération. Et puis un mot de basketball, Coupe d'Afrique des clubs champions et le club africain de Tunis se reprend. Après deux défaites, le champion tunisien a battu hier l'AS Manto 79-77. Et puis en NBA, cette fois avec vous Idrissa, vous nous donnez les résultats de la nuit.
Philadelphia 97, Détroit 79, Boston 96, Oklahoma City 99, Golden State Warriors 116, Minnesota 108, New Orleans Pelicans 120, Phoenix 119.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les organisations de la société civile dénoncent de multiples violations des droits de l'homme. 8 mois après le déclenchement de la crise électorale, le 4 avril dernier, les ONG estiment que les arrestations arbitraires et la torture sont en augmentation dans le pays. De Brazzaville, le reportage de notre correspondant Nguela Ngoussou.
La période chaude des élections est pourtant passée, mais les activistes des droits de l'homme continuent d'enregistrer de nombreux cas de violation. Pour le président de la DUC, une ONG congolaise, en 9 mois, depuis l'éclatement de la crise électorale, la torture et les enlèvements sont au top dans le pays. Luamba Moké détient même des images des victimes de ces violences.
Depuis le référendum en 2015 et ensuite il y a eu les élections présidentielles le 20 mars 2016 et depuis lors il y a eu pas mal des arrestations arbitraires et il y a eu effectivement des tortures, les enlèvements à 2h du matin et contrairement à la législation nationale de notre pays. On a projeté les images de torture que les citoyens subissent et ce qui fait que la torture est réelle dans notre pays.
Mais les autorités estiment que tout cela n'est que de la pure critique stérile, savamment entretenue par des pamphlétaires des droits de l'homme. Pierre Mabiala est ministre de la Justice et des Droits humains.
La République du Congo n'a de leçons à recevoir d'aucun pamphlétaire ni d'aucun maître chanteur, alors que, pendant qu'ils se livrent à de telles manœuvres, le Congo leur offre tous les droits. Le temps des pamphlets et de critiques stériles en matière de droits de l'homme au Congo est révolu. Le Congo avance. Le Congo travaille à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Nul ne réussira à le détourner de cette voie noble, choisie par son peuple, qui en fait un idéal. Pendant que les pamphlétaires et les maîtres chanteurs passent leur temps à satisfaire les intérêts, il faut le dire, égoïstes, des lobbies étrangers.
Mais pourtant, Trésor Dilakende, directeur exécutif de l'OCDH, reste convaincu que le ministre Mabiala se trompe.
C'est vraiment ridicule. Il a raison en tant que ministre de la Justice, membre du gouvernement, de prendre une telle position, mais il a tort d'ignorer la réalité. Augmentation des cas de torture, y compris pour des motifs politiques. Et il y a une forte augmentation des cas d'arrestation et de détention arbitraire. Sur des bases purement subjectives, les forces gouvernementales se permettent de priver des individus arbitrairement leur liberté et on enregistre des lieux de détention non officiels.
10 mois après l'élection présidentielle, certains Brazzavillois se disent toujours inquiets pour leur sécurité. Récemment, c'est Franck Eloge Mpassi, le porte-parole du pasteur Ntomi, qui a été arrêté depuis son quartier de Mayanga. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville sur le 101.9 FM.
Au Mali, 25 millions de dollars ont été mobilisés pour le DDR, le Programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, au cours d'une rencontre entre le gouvernement et ses partenaires. Ces derniers se sont engagés à mobiliser le reste début 2017. Ce montant ne représentant que 50% de la somme globale du DDR. Comme nous le rappelle notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, ce programme constitue une phase capitale dans la mise en application de l'accord d'Alger.
Le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion au DDR, c'est par là que toute l'application de l'accord d'Alger devrait commencer pour éviter les réunions interminables entre le gouvernement et les groupes armés. Zabi Ouldou Sid Mohamed, président de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion.
Ce document prévoit à peu près, pour le coup du programme de la réinsertion des ex-combattants, un budget d'environ 50 millions de dollars. Et cette table ronde qui a permis de mobiliser déjà 50% de ses ressources. C'est un programme qui va s'étaler sur 3 à 4 ans. L'État malien a participé à ces financements, donc jusqu'à concurrence de 10 milliards, et le reste, c'est les partenaires.
Les DDR concernent 1000 combattants des groupes armés. Chaque combattant sera cantonné dans un premier temps pendant 45 jours sur les 8 sites de cantonnement identifiés.
Les responsables des différents mouvements armés vont nous donner les listes de leurs combattants armés. Et par région, les sites qui sont situés dans la région vont accueillir ces combattants. Le combattant fera une interview avec des choix. S'il veut aller dans le corps habillé, des choix s'il veut aller à la fonction publique ou des choix pour la réinsertion dans sa communauté d'origine. Et une fois que cela est fait, nous aurons une banque de données claire, il aura une carte de démobilisé.
Le DDR ne sera pas une exclusivité pour les seuls combattants des groupes armés de la CMA et plateforme. Il concerne tous les groupes armés des différentes régions du Mali, précise Zabi Ould Sidi Mohamed.
Le processus, il est inclusif par nature. Tu n'as pas besoin forcément de passer par plateforme ou CMA. S'il y a des groupes armés, le désarmement, c'est la responsabilité de l'État malien. Donc sur ça, il n'y a aucune ambiguïté. Ceux-ci ont leurs combattants et les autres, c'est d'autres groupes armés. Ils peuvent être éligibles. Tant que c'est des Maliens, ils sont éligibles au programme. Ils vont passer aussi par le même processus. Nous n'allons pas nous enfermer dans les petites querelles plateforme CMA.
Le programme prévoit également des projets pour aider les populations victimes de violences au nord comme partout au Mali.
Nous aurons un volet qui va aux ex-combattants, mais on aura un volet qui va aussi aux communautés victimes de la violence. Et parmi ces communautés victimes de la violence, nous avions par exemple l'association des veuves des victimes des conflits du nord. Maintenant, l'inclusivité toujours, les communautés aussi auront des projets de réinsertion parce que beaucoup de communautés ont été victimes la violence et il faudrait que ces communautés aussi bénéficient du programme.
Une fois que le DDR fonctionne dans une localité, aucun autre groupe ne sera autorisé à faire des mouvements en dehors des patrouilles mixtes.
Parce que là, les règles seront claires. Puisque actuellement, vous avez tout le monde circule avec pavillon de mouvement et tu circules et on dit oui, il est de la CMA, il est de la plateforme. Là, il n'y en a plus. Une fois que le désarmement est fait dans une zone, en tout cas, il n'y a plus d'excuses pour nos partenaires, les nationaux. L'aménagement et Berkane de laisser des convois comme ça circuler.
Le programme désarmement, démobilisation et réinsertion DDR est déjà en marche. Il se veut une mission de terrain et non de bureau. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Après son élection dès le premier tour à la présidence de son pays, l'opposant historique ghanéen Nana Akufo-Addo devra se mettre rapidement à la tâche face aux multiples défis qui ont probablement contribué à la défaite du président sortant, John Dramani Mahama. Timothée Donangmaï a joint à Accra Pamela Elenga-Bous, une étudiante congolaise.
On a vécu quatre ans de coupure de l'électricité. On a beaucoup été affectés par le baril du pétrole. C'est vrai qu'il y a eu des changements économiques partout, mais au Ghana, ça se sentait trop. Le changement était trop vite. Chaque 3 mois, on avait une augmentation de frais de transport. Il y avait trop de changements négatifs, quoi.
Le président sortant a accepté sa défaite d'emblée. Comment expliquez-vous cette position?
Ça nous est du Ghana. Nous, on est francophones, d'où on vient. Ça finit par du sang, ça finit par la guerre parfois. Et ici, au Ghana, c'est la deuxième élection que j'ai vécue ici. Avant, ils sont allés à la cour, ils ont repris les comptes et tout. C'était bon, l'autre a accepté la victoire. Et cette année, même avant que la commission électorale n'annonce les résultats, le président a compris qu'il perdait. Il a appelé l'opposant pour le féliciter. Voilà, c'était déjà la joie qui avait éclaté. C'est vraiment à féliciter. Le Ghana a fait la fierté de l'Afrique.
Quels sont les défis qui attendent le président élu ghanéen?
Oui, il faut en parler parce qu'il a trop de défis à relever. La monnaie qui perd sa valeur chaque mois. Il y a la dépréciation du CDI ici, il y a l'électricité. L'école coûte quand même cher ici. Il a promis des écoles gratuites, il a promis ça. Il y a des grands défis à relever. L'économie, l'électricité, le problème d'énergie, le coût de la vie. Il a du boulot.
C'est la troisième fois que l'opposant historique ghanéen se lançait dans la course à la présidentielle et c'était la bonne. Quels sont ses atouts pour relever les défis que vous avez mentionnés il y a un instant?
En somme, ce que les gens disent, c'est quelqu'un d'abord qui a les capacités pour relever les défis. Ensuite, il a beaucoup de connexions avec l'extérieur, les marchés. Voilà, ça va apporter beaucoup d'opportunités au pays. Ça va faire entrer le marché, ça va faire entrer l'argent. C'est ça qu'il a en fait.
Pamela Elenga-Bous, étudiante congolaise, jointe à Accra.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il y a un an, ici aux États-Unis, la maire de Flint déclarait l'état d'urgence. Les habitants de cette ville du Michigan ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois. La ville avait préféré prendre son eau de sa propre rivière plutôt que de payer un système hydraulique. L'eau non traitée est arrivée dans les robinets des habitants. Près de 30 000 personnes ont été sévèrement empoisonnées dans le but d'économiser quelques millions. VOA Afrique s'est rendue sur place pour faire l'état des lieux et nous retrouvons Nastasia Peteuil à Flint pour parler des travaux qui remplaceront les canalisations de 50 000 résidences.
Ce matin, les pelleteuses s'activent sur Ida Street, dans le sud-ouest de Flint. Quelques résidents regardent les ouvriers creuser la terre. À Flint, de nouvelles canalisations remplacent les vieux tuyaux rouillés par l'eau corrosive de la rivière. Le capitaine Mike Daniel est en charge des travaux. À la retraite depuis peu, il a été appelé à la rescousse par la mairie de Flint.
Nous ne savons pas combien de canalisations nous devons remplacer. Près de 30 000 personnes ont un compteur actif. La moitié ont besoin d'avoir un remplacement. Nous pouvons remplacer entre 200 et 300 canalisations par mois, donc si on fait le calcul, ça nous emmène jusqu'en 2017.
La lenteur des travaux agace les habitants, surtout Karen River, la maire de Flint. Le changement de canalisation ne permet toujours pas d'avoir de l'eau potable dans les robinets. Filtres et bouteilles d'eau en main, les habitants sont en colère. Pour Karen River, si elle avait les fonds nécessaires, le processus serait plus rapide.
Le plus grand obstacle, c'est d'avoir notre destin dans les mains de quelqu'un d'autre. L'État fédéral et celui du Michigan gèrent notre argent. Et c'est vraiment frustrant, énervant, décevant. Car si nous avions l'argent, nous serions intervenus beaucoup plus tôt. C'est la source de notre frustration. Cela fait 3 ans que la crise a commencé. 3 ans. Et nous avons toujours des filtres et des bouteilles d'eau.
Mais la maire essaie de voir le côté positif de la crise. Contrôlée fiscalement par l'État du Michigan, la ville a choisi de faire appel à des entreprises locales pour mettre la crise au profit du comté.
En ce qui concerne le remplacement des canalisations, nous avons embauché des entreprises de Flint et ses environs. Nous voyons cela comme une opportunité de développer notre économie.
Les habitants gardent un goût amer de la situation. Ils doivent continuer à payer leurs factures d'eau entre 70 et 150 dollars par mois. Le comble dans le Michigan, surnommé l'État des Grands Lacs et encerclé par des millions de mètres cubes d'eau potable.
Eh bien, c'était Nastasia qui nous parlait de Flint. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver le reportage « L'eau de la colère » sur notre site internet voafrique.com. Rendez-vous demain pour évoquer le sentiment d'injustice qu'éprouvent les habitants de Flint et les procédures judiciaires en cours.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.